À force de donner trop de bonnes réponses, les religions ont tout simplement perdu la question. Et ce qu'il faut retrouver, c'est la question. Dernier volet de notre série à vue d'esprit consacré à l'histoire de l'interdiction des prêtres ouvriers à travers l'itinéraire de l'un d'entre eux, Jean-Marie Huret. Et ce soir, c'est de sa foi qu'il va nous parler, une foi en forme de point d'interrogation. Catherine Erard est au micro.
À vue d'esprit.
Le 1er mars 1954, le Vatican interdit les prêtres ouvriers, par peur du communisme, par pression du patronat français également. Jean-Marie Huret, tout jeune prêtre, décide lui alors de rester ouvrier. Il sera immédiatement exclu du sacerdoce. Je l'ai rencontré dans sa Normandie natale, au Havre, où il a travaillé toute sa vie comme ouvrier, et sur la digue Nord, en face de la mer. À aujourd'hui 80 ans passés, Jean-Marie me parle de sa foi d'ancien prêtre devenu un croyant non pratiquant. Jean-Marie, toute cette expérience que vous avez vécue depuis 1954, après de vivre hors église, au milieu des ouvriers, ça a changé beaucoup de choses en vous. J'aimerais qu'on parle un peu de ça aujourd'hui. Et puis j'aimerais que vous commenciez, si c'est possible, par me raconter cette histoire quand vous êtes allé aux 80 ans de Louis Augros.
Ah oui, il y avait l'évêque du Havre qui était au repas. Vers la fin, l'évêque du Havre, avec beaucoup de bonne volonté, est venu me voir et me dire « Jean-Marie, il faut qu'on règle nos affaires tous les deux, tu viens me voir, on dîne ensemble un jour, et puis moi j'oublie tout et tu te retrouves réintégré comme un autre. » Alors j'ai dit, je remercie beaucoup de la bonne volonté, mais la rupture qui s'est passée entre moi et entre nous et l'Église, c'est pas une rupture personnelle, ça a été une rupture historique, c'est un événement de l'histoire contemporaine, où l'Église est en rupture avec un monde, et à cette époque-là, c'était plus particulièrement avec le monde ouvrier. Donc moi, s'il y a une rupture avec l'Église, c'est pas Jean-Marie qui est en rupture avec l'Église, c'est l'Église qui est en rupture avec un monde ouvrier avec lequel je me solidarise.
Aujourd'hui, vous avez 80 ans, quel sens est-ce que vous donnez à cette rupture ?
Dans notre réflexion, on a abouti à un moment donné à se dire, au fond, ça a été une rupture fondatrice. Parce que peut-être, elle a permis une rencontre avec ce monde en totale liberté. Et on s'est reconstruit avec ce monde ouvrier. Et après, avec notre société en général, moderne. La critique d'une tradition suppose qu'elle existe. Et cette critique amène des ruptures, et ces ruptures sont les conditions de sa transmission. C'est vrai que c'est très fort, j'en ai beaucoup vécu parce que je l'ai découvert après.
Ça, c'est une citation de Siboni.
Oui, du psychanalyste Daniel Siboni. Et je crois que c'est assez vrai, ça, parce que les ruptures veulent dire une obligation de réinventer, de régénérer et de s'approprier, en quelque sorte, cette tradition avec toutes les valeurs qu'elle contient. C'est pour ça que quand il dit « suppose qu'elle existe », c'est dommage si elle n'existe plus, on ne peut même plus la critiquer. Et si on ne peut plus la critiquer, on ne peut même pas en extraire les valeurs qui sont toujours valables. Mais ces valeurs, il faut les dégager d'une fixation définitive, dans une formulation, dans des dogmes. C'est ça qui est très fort dans cette... Et ça, je l'ai vécu très fort, ça.
D'être au milieu des ouvriers, non pas pour leur apporter quelque chose, non pas pour transmettre quelque chose, mais d'être là pour recevoir d'eux. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu ce changement-là ?
Il y a une réciprocité, bien sûr. On est ce que l'on est, et on apporte ce que l'on vit et ce qu'on cherche à être. Et puis ce monde ouvrier avec sa culture, avec son histoire, apportait quelque chose probablement qu'on ignorait et qui s'inscrivait dans des valeurs humaines profondes qui finalement ressemblaient à des valeurs de l'Évangile. Donc il y avait là un apport de ce que l'on est et une réception de ce qu'ils étaient, de cette histoire. C'est vrai, c'est un échange.
Ça vous a jamais manqué d'annoncer l'Évangile explicitement ?
Non, parce que on l'annonce par ce que l'on est et par ce que l'on vit. C'est plus fort que le langage, hein, il me semble.
Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à dire le credo ?
Non, non, non. La formulation du credo ne correspond plus à notre culture moderne, enfin à notre culture d'aujourd'hui. Le Dieu Tout-Puissant, ça ne peut plus... On parlait du monde ouvrier qui fait son histoire, et tout homme est dans l'obligation de faire son histoire. Or, un Dieu Tout-Puissant qui a l'air de se substituer à sa propre responsabilité et à sa liberté, ça n'est plus supportable. Il y a des clichés comme ça, des idées reçues qu'il faut bien repenser, qu'il faut bien resituer dans notre culture, contre laquelle on ne peut pas aller, quoi. Enfin, les connaissances qui sont acquises, elles sont acquises. Et elles remettent en question d'une manière très, très vivante les idées reçues et les représentations reçues. Hein. Donc, je sais pas, si on continuait... le Fils de Dieu, assis à la droite de Dieu, enfin, à la droite du Père. Enfin, tout ça, c'est des formulations qui ne tiennent plus.
Quand vous parlez de rupture entre l'Église et le monde ouvrier, c'est aussi une manière de dire que l'Église n'a pas su rejoindre la culture ouvrière, mais plus largement, pour vous, la culture d'aujourd'hui.
Oui, c'est ça, c'est vrai. Je crois que la doctrine, les dogmes catholiques ont été formulés, pensés à d'autres époques, dans une autre culture. Au Moyen-Âge, ça correspondait, la culture vécue était branchée sur... et réciproquement sur la doctrine, mais aujourd'hui, cette doctrine fixée définitivement, elle n'est plus questionnable. C'est définitif, c'est défini comme ça à tout jamais. Ça ne correspond plus et ça n'est plus branché sur la culture vécue aujourd'hui, sur notre manière de vivre, sur notre comportement, sur le développement de l'individu que cette culture a permise par l'instruction, par les connaissances acquises. Donc c'est débranché.
C'est une culture qui apporte des réponses, mais qui n'aide pas à questionner.
Culture chrétienne, oui. Ouais. Tu veux dire, oui. Oui, une doctrine dogmatique qui a ses réponses définitives, alors qu'on est devant des questions qui n'ont sans doute pas de réponses, sinon de les maintenir vivantes en soi. Quoi.
Vous avez écrit un livre qui s'appelle « La question perdue ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ce livre ?
Ben, j'ai voulu dire qu'il y avait évidemment dans les religions et dans la religion catholique que je connais mieux, il y a une question fondamentale qui est celle que l'homme se pose, les origines, la finalité, le sens de la vie. Et toutes les religions ont apporté des réponses. Le dommage, c'est qu'elles ont donné des réponses qu'elles ont estimées définitives et uniques, comme si c'était la vérité définie à tout jamais. Et c'est dans ce sens-là que c'est dommage qu'il y ait une rupture avec une question posée qui, elle, est toujours vraie. Enfin, et la question, il ne faut pas la perdre. C'est dans ce sens-là que j'avais écrit « La question perdue ». C'est Jean-Luc Godard qui a dit « Notre société est à la recherche d'une question comme fatiguée par trop de bonnes réponses. » C'est tout à fait ça. Yanel Siboni vient d'écrire un livre, La question de Dieu. Jacquard a écrit un livre, Dieu, point d'interrogation. Régis Debray, Itinéraire de Dieu. Le fait religieux comme un fait qui traverse l'histoire et toutes les cultures. Et il réfléchit sur ce fait religieux, tout en étant agnostique d'ailleurs. Le fait religieux est un fait qui traverse l'histoire de l'humanité. Ça prouve bien qu'il y a une question fondamentale qui est contenue dans ce phénomène.
Comme s'il fallait un peu se débarrasser des réponses, puis retrouver la question, être en questionnement.
Oui, je crois que notre culture actuelle, moderne, porte en elle la même question qui a toujours été posée, mais elle la pose autrement, elle la formule autrement.
Si je vais un peu plus loin, Jean-Marie Huret, est-ce que ça veut dire pour vous que l'institution ecclésiale, de quelque époque, de quelque temps qu'elle soit, a un biais puisqu'elle fournit des réponses ?
Non, il faudrait qu'elle reçoive la question et qu'elle propose en quelque sorte des réponses un peu provisoires. Et puis peut-être qu'elle finisse par dire « il n'y a pas de réponse ». Enfin, ça serait peut-être ça.
Vous rêveriez d'une église qui dise « voilà ce qu'on pense aujourd'hui, mais on n'est pas sûr, et puis il n'y a peut-être pas de réponse ».
S'il n'y avait pas de théologie, l'église reprendrait l'avis de Jésus, les questions qui se posaient, et qui introduisait la question dans une histoire humaine. C'est ça le propre d'ailleurs du christianisme, qui est original par rapport à toutes les religions, qui mettent Dieu dans un ciel. Alors, Jésus a transformé le Dieu du ciel en le Père, parce que dans son époque, il n'était pas question de mettre en cause l'existence de Dieu. Et il ne fait pas de théologie quand il dit, c'est Saint Jean qui dit ça, celui qui aime connaît Dieu. Et aimer, c'est dans l'histoire humaine, ça, c'est dans la liberté de l'homme, c'est pas ailleurs, ça ne peut pas se passer ailleurs que d'aimer dans notre histoire. On aime et on ne sait pas trop d'où ça vient et où ça va. Enfin, ça serait peut-être ça, la foi. C'est avoir l'intuition personnelle de ce qui nous concerne, de notre propre histoire et de ce qui nous dépasse. Enfin. Et Siboni, là-dessus, il a une réflexion intéressante. Il appelle cette sorte de moment crucial de la question les états limites. Les états limites, c'est oui, l'amour-passion, la naissance de la vie, la mort. Il appelle ça des états limites, où on se rend compte qu'on le vit intensément, personnellement, et en même temps que ça nous dépasse. Moi, la foi, c'est ça, dans lequel j'introduis une sorte d'espérance, mais sans réponse. Et c'est ce qui permet que la question s'approfondisse toujours, sans jamais se fermer sur une réponse. Enfin, ça, c'est bien plus fort. C'est la réflexion du poète Rilke qui dit ça très bien. C'est en entrant toujours plus dans la question qu'on entre insensiblement dans la réponse, sans jamais sortir de la question. Là, il y a une vie spirituelle d'une très grande richesse, je trouve.
Qu'est-ce que vous gardez de l'Évangile aujourd'hui ?
L'amour fraternel, enfin, ça c'est évident, quoi. Le respect des petits, laisser venir à moi les petits-enfants, enfin, tout ce qui est en état de recherche et de question, qui n'est pas des personnalités affirmées ou enfermées dans leur certitude ou leur pouvoir. Enfin. Le sens des petits, sûrement. Louis Augros m'avait dit : tu vas à l'école des pauvres. Bon, ben ça a du sens, surtout quand ce pauvre essaie de se libérer de sa pauvreté.
Pour vous, l'histoire a un sens, l'histoire humaine a un sens.
Ben je le cherche.
L'histoire des hommes.
Je le cherche à travers une possibilité d'avancer vers une sorte d'unité humaine, une fraternité. Edgar Morin appelle ça le planétaire, enfin une conscience planétaire. C'est peut-être ça, que ça le sens. C'est peut-être vers ça qu'on a, malgré toutes les contradictions et les reculs. Mais il y a probablement une possibilité de croire en une avancée de l'homme. Et c'est pas toujours facile dans les époques où le terrorisme, où les guerres, où la force, où la violence s'imposent. Pour y croire, il faut aller plus loin.
Comment est-ce que vous voyez, vous, l'avenir de l'Église ? Vous avez parlé d'une rupture fondamentale avec le monde ouvrier. Est-ce que pour vous, il y aura toujours une rupture entre l'Église et la société ? Est-ce que vous espérez que ça change ?
Non, je n'ai pas beaucoup d'espoir dans cette institution tellement figée, le magistère qui interprète, et c'est la seule interprétation qui est la vérité. Non, je crois qu'il va falloir qu'elle... Je dirais pas qu'elle meure, mais qu'elle disparaisse en tant qu'institution. Ce qui pourrait lui rendre toute sa charge d'évangile, qui n'est pas un pouvoir, qui n'est pas une institution dogmatique. Alors, ce sera peut-être possible, mais ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas. Pour le moment, ça n'en voit pas le chemin. Alors je veux bien espérer, mais je n'y crois pas beaucoup. En tout cas, dans sa forme actuelle. Ça serait une telle métamorphose que je ne l'imagine pas, quoi.
C'est marrant parce qu'on a l'impression que vous êtes pas trop, vous faites pas partie des gens qui vous êtes mis à repenser l'Église en disant il faudrait changer ça, 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 ça.
Ben non, on a vécu ce qu'elle pourrait être, je crois que c'est tout.
Si vous désirez consulter les livres auxquels Jean-Marie Huret fait référence, vous les trouverez sur notre site internet rscr.ch/esprit, esprit écrit au singulier. Et puis un petit rectificatif, le livre de Daniel Simoni auquel Jean-Marie Huret fait référence s'appelle en fait « Nom de Dieu » et s'est paru au Seuil en 2002. Vous trouverez également sur notre site les ouvrages qu'a écrit Jean-Marie Huret, « La question perdue » paru chez Desclés de Brouwer en 1998 et son autobiographie « Prêtre ouvrier assoumis » paru au CERF en 1993. Comme toujours, vous pouvez commander un enregistrement de ces émissions ou nous faire part de vos remarques à notre répondeur, le 021 318 60 70, 021 318 60 70. Merci à Bastien Meucli pour la réalisation de ces émissions et à Denise Fischer, notre assistante de production. La semaine prochaine, A Vue d'Esprit vous emmène dans l'univers de l'hindouisme. Natacha Mourican abordera la question du polythéisme, comment peut-on croire en une multitude de dieux ? Merci pour votre fidélité et excellente fin de soirée et bon début de week-end.